Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien.
Le livre biblique des Proverbes nous enseigne comment nous comporter avec sagesse sur des thèmes touchant notre quotidien. Nous avons déjà réfléchi sur certains proverbes traitant de nos relations avec nos amis et nos voisins. Alain, sur quel sujet allons-nous nous pencher aujourd'hui ?
Je voudrais à présent réfléchir sur l'homme et sa relation avec Dieu. J'aimerais lire pour commencer un proverbe au chapitre 24, verset 12. Car si tu dis « je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas lui ? Ou celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. La première pensée à retenir de ce verset est que Dieu considère les hommes comme étant responsables de leurs propres actes et pensées. Car tous rendront compte un jour devant l'Éternel de ce qu'ils auront fait, dit ou pensé. Dieu jugera ainsi les hommes chacun selon leurs œuvres ou desseins secrets formulés dans leur cœur.
Cela donne à réfléchir. Le péché ne restera pas impuni. Même si nous parvenons à dissimuler nombre de nos fautes aux hommes, jamais elles ne resteront cachées au regard de Dieu, qui seul voit tout. Et même si certaines parviennent à échapper à la justice des hommes, le jour viendra où Dieu exercera sa justice, parfaite et juste, sur tous. Nous devons donc prendre très au sérieux cette réalité. Mais pouvez-vous nous parler plus en détail de ce Dieu dont il est question dans les Proverbes ?
Oui, il est celui qui se nomme l'Éternel. Ce nom évoque un Dieu infiniment grand, existant depuis toujours. La Bible le déclare, il est le seul vrai Dieu, le seul digne de notre adoration, le seul digne de confiance, le seul qui est tout-puissant, le seul juge et le seul sauveur. Il est le Dieu de tous les hommes sans exception, car il est le Créateur de tous. Et c'est pour cela qu'un jour, nous lui rendrons compte de tout ce que nous aurons fait, soit en bien, soit en mal. Parce qu'il nous a créés, il est le maître de nos vies et en dispose. Dieu nous a fait pour marcher dans ses voies, pour rechercher la justice, l'intégrité et la droiture. Également, nous sommes créés pour rechercher son amour, sa miséricorde, la maîtrise de soi et mettre sa parole en pratique.
Il me semble que, selon le proverbe lu, même ceux qui ignorent la véritable signification du mal et du bien seront eux aussi jugés selon leurs actes.
Oui, l'ignorance ne sera pas tenue comme une excuse. Ce qui est mal aux yeux de Dieu le demeurera toujours, qu'un homme en soit conscient ou non. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, il est important de rechercher la sagesse de Dieu et nécessaire de désirer vivre une vie lui étant agréable. Les proverbes nous encouragent à aspirer après la justice, la droiture et à rechercher la sagesse divine. Mais, je dois le préciser, la pratique de règles ou d'actes religieux ne garantissent pas la faveur de Dieu.
Pouvez-vous vous expliquer davantage ?
Écoutons la lecture de quelques proverbes, tout d'abord au chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur devant Dieu. Ensuite, chapitre 15, verset 8. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. Ces proverbes montrent qu'il est possible de tromper les hommes en affichant devant eux une certaine piété, en leur faisant croire par la pratique d'actes religieux, la fréquentation d'un lieu de culte ou de prière, que l'on est une personne bien. Toutefois, si l'on continue à pratiquer le mal dans le secret, Dieu le voit, et il a cela en horreur. Sachez-le. Nos actes pieux ne pourront jamais compenser le mal que nous faisons ni effacer nos fautes.
Il ne doit pas donc y avoir de contradiction entre ce que nous vivons au quotidien, au sein de la famille, au travail, parmi nos amis, et notre pratique de la foi.
C'est exact, Yann. Selon les proverbes, si nous connaissons Dieu, notre vie entière doit le refléter. Écoutons la lecture du verset 16 au chapitre 16. Par respect de l'Éternel, on se détourne du mal.
Donc les qualités telles que la justice, la droiture et la bonté sont tout aussi importantes que la prière, le jeûne et la fidélité à un lieu de culte.
Oui, vous avez raison.
La Bible le déclare, tous nous avons péché, tous nous sommes coupables devant Dieu. Même nos meilleurs actes de piété ne pourront jamais dissimuler nos fautes loin du regard de l'Éternel. Alors, comment obtenir la faveur de Dieu? Les proverbes nous donnent-ils des indices?
Écoutons la lecture du verset 13, chapitre 28. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous obtenons de Dieu sa faveur, c'est parce que l'Éternel est miséricordieux. C'est lui qui nous accorde son pardon. C'est lui qui efface nos fautes. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire.
Mais à qui l'Éternel offre-t-il son pardon?
L'Éternel offre son pardon à celui ou celle qui avoue ses fautes, à celui ou celle qui lui confesse ses péchés et qui désire ardemment ne plus poursuivre le mal. Celui qui prétend ne pas avoir péché, tout comme celui qui dissimule ses fautes devant Dieu et devant les hommes, celui-là ne pourra jamais obtenir de Dieu sa miséricorde ni son pardon.
C'est ce que la parole de Dieu déclare dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons conclure aujourd'hui en lisant un verset de la première épître de Jean, au chapitre 1, versets 8 et 9. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.
À présent, Yann et Flavien poursuivent leur discussion sur la parabole des deux fils perdus. Yann va commencer par un court résumé sur la partie du récit déjà étudiée.
Nous avons déjà appris qu'un des deux jeunes hommes de cette parabole partit de chez lui, après avoir demandé à son père sa part d'héritage. Ensuite, dans un pays lointain, il dilapida tout son argent et se retrouve totalement démuni et affamé. En réfléchissant sur sa situation, il prit conscience du mal qu'il avait fait à son père et voulut rentrer chez lui. Mais alors qu'il était encore loin de sa maison, son père l'aperçut et courut à sa rencontre. Voici donc la suite de cette histoire.
Le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le-lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. »
La dernière fois, nous avons découvert que le père du jeune homme s'est réjoui du retour de son fils. Il lui pardonna tout et désira ardemment se réconcilier avec lui. Il le considère toujours comme son enfant. Malgré ses fautes, ce jeune homme garde son statut de fils et tous les privilèges en découlant. La joie de son père est véritable. Spontanément, il organise un festin auquel tout le village est confié afin de célébrer cette bonne nouvelle. Celui qui était perdu est maintenant retrouvé. Aujourd'hui, Yann, j'aimerais réfléchir sur le sens de cette parabole à la lumière de son contexte.
Et que voulez-vous dire par cela?
Il est important de noter la raison pour laquelle Jésus a raconté cette parabole, car il l'a fait dans une situation bien particulière.
Alors, à quelle occasion Jésus a-t-il raconté cette parabole?
Écoutons l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 1 et 2. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et sa table avec eux. »
Quel est donc le rapport entre ces faits et la parabole racontée par Jésus?
D'abord, nous constatons que les pharisiens méprisaient ceux qui avaient une mauvaise réputation et ils critiquaient Jésus parce qu'il les fréquentait. Or, nous pouvons comparer ces gens de mauvaise réputation avec le fils de notre parabole parti loin de chez lui. Ces gens avaient sans doute commis de graves fautes. Ils s'étaient éloignés de Dieu, avaient gâché leur vie et étaient tombés dans le malheur. Selon les pharisiens, il n'y avait plus d'espoir pour de telles personnes. Elle s'était privée de la bénédiction de Dieu, s'était exclue de ses promesses. Pour elle, ça n'était fini.
Mais Jésus était-il d'accord avec ces pharisiens ?
Jésus a répondu aux critiques des pharisiens à travers la parabole que nous étudions.
Et quelles conclusions en retirer ?
En fait, plusieurs conclusions sont à en retirer. Tout d'abord, Jésus s'est adressé à ceux qui étaient mal considérés par la société. Et il leur dit que malgré tout ce qu'ils ont pu accomplir de mal dans le passé, l'espoir d'un nouveau départ dans la vie est possible pour eux. Si ces personnes reviennent sincèrement à Dieu, elles ne rencontreront ni sa condamnation, ni son châtiment, car Dieu pardonne aux hommes, il prend sur lui-même le poids de leurs fautes. Plus merveilleux encore, ceux qui mettent leur confiance en Dieu seront reçus comme des fils ou des filles de Dieu.
C'est vraiment une très bonne nouvelle pour ces personnes à qui la société n'apportait plus aucun espoir. Et ce message reste vrai aujourd'hui encore.
C'est exact, Yann. Dieu se réjouit lorsque des personnes se repentent et il les accueille auprès de lui. Elles deviennent ses enfants. Il ne le fait pas contre cœur, il le fait avec joie. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, la Bible le déclare. Il y a de la joie dans les lieux célestes, car l'amour de Dieu a triomphé dans la vie de cet homme ou de cette femme. Il ou elle est passé de la mort à la vie.
Mais vous avez parlé tout à l'heure d'autres conclusions à en retirer. Quelles sont-elles ?
Oui. Confronté aux critiques des pharisiens, Jésus leur parle de l'amour de Dieu envers tous les hommes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur passé et leur situation. Mais à présent, à son tour, il remet en question leur attitude. Les pharisiens n'ont pas le droit de priver ces hommes et ces femmes de l'espoir que Dieu leur offre. N'ayant pas compris eux-mêmes la grâce de Dieu, ils conduisent les autres dans l'erreur. Nous non plus, nous ne devons pas priver d'autres de la possibilité de trouver auprès de Dieu pardon et grâce, miséricorde et tous les privilèges accordés à ses enfants. Malheureusement, il est trop facile d'être comme ces pharisiens, d'être rempli d'idées préconçues, de préjugés. Nous devons nous réjouir de la grâce que nous avons reçue de Dieu et nous réjouir de pouvoir l'offrir à d'autres, sans exception.
Merci Flavien pour ces réflexions importantes. Cependant, cette histoire ne se termine pas sur cette note de joie et de fête.
Oui, rappelons-nous que cet homme avait deux fils. Seul le cadet partit de la maison, tandis que l'aîné resta auprès de son père. La question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Comment ce fils aîné a-t-il réagi en apprenant le retour de son frère ?
Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
À présent, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.